Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes. Aujourd'hui avec moi en plateau, il y a Marine Combe. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine féministe René Yeg, que l'on peut lire sur yegmag.fr. Et je dois avouer à nos auditrices que vous n'êtes pas seule. Il y a Lise avec nous. Bonjour Lise.
Tu veux dire bonjour ?
Avec moi en plateau également ce midi, Gwen Pacotte, productrice et cofondatrice de l'agence Void, dédiée aux arts vivants, autrice, compositrice, interprète au sein du groupe anti-folk Rukin. Je me disais que peut-être un jour on écouterait Rukin sur dans les héroïnes sur Canal B, et coéditrice, cofondatrice des éditions RAC. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Et nous avons l'immense joie de recevoir Suzanne Joly, une voix que vous connaissez dans les héroïnes, qui vient nous parler avec sa cofondatrice Aminata Bléa Sangaré du festival Aux Parleuses pour oser l'ouvrir qui a lieu demain samedi 11 octobre à Rennes, et on en discutera tout à l'heure également. On écoutera l'interview de Marie Anouk et Marina du collectif féministe Vacarme, le cri des hyènes. Voilà.
It's Britney bitch. It's Britney bitch.
Alors, si vos oreilles étaient branchées sur Canal B l'heure précédente, vous venez d'entendre, vous avez pu entendre, l'émission spéciale réalisée par Nina Beltram de Canal B avec le mouvement associatif breton. Si vous l'avez manqué, pas de panique, vous pourrez l'écouter demain, samedi à 10h. Elle est rediffusée sur cette même antenne. Et ça, je vous le conseille vivement, tant cela est intéressant, riche d'enseignements, et qu'il est extrêmement rare, finalement, que les associations décident d'interpeller ainsi les pouvoirs publics. Un mot d'ordre, ça ne tient plus. En France, il y a 20 millions de bénévoles et les associations emploient presque 2 millions de salariés. Ces bénévoles et ces employés du monde associatif œuvrent dans le sport, la lutte pour la préservation de l'environnement, la lutte contre la précarité, contre la faim. Elles œuvrent également dans le soin, pour l'éducation et la culture, comme ici au sein de l'association Canal B. Nous nous emparons de tout ce que l'État ne prend pas en charge, et l'État nous subventionne pour cela. C'est le deal. Nous sommes d'utilité publique. Mais nos conditions d'existence, de survie, devrais-je dire, et de travail se dégradent fortement depuis des années. En 15 ans, de 2005 à 2020, la part des subventions a chuté de 41%. Pourtant, nous créons du lien social, nous allons vers les plus précaires, les plus éloignés de la culture, nous sommes l'antidote face à la montée des néo-fascismes et des populismes, nous sommes un bouclier contre le délitement politique, social et économique. Voilà déjà plusieurs années que le monde associatif essaye d'alerter les pouvoirs publics. On pense notamment aux associations de la région Pays de la Loire, asphyxiées voire anéanties par les coupes budgétaires drastiques et arbitraires de Christelle Morançais. On pense aussi à la Fondation des Femmes qui, depuis plusieurs mois, alerte sur les aides aux associations qui soutiennent les femmes. Et puis, là, coup de bambou, mercredi à Rennes, ISKIS, centre LGBTIQIA+, de Rennes, a appris par la préfecture une coupe de subventions inimaginable qui va foudroyer cette association d'utilité publique. 40 000 euros. 40 000 euros de moins pour ISKIS, centre LGBTIQIA+, de Rennes. Alors, en tant que membre de la Fédération des centres LGBTIQIA+, le centre ISKIS bénéficiait du programme de soutien initié par la DILCRA. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, qui a été initiée sous l'impulsion d'Elisabeth Borne. C'est un programme de 10 millions d'euros sur 3 ans, de 2023 à 2026. Sans aucune autre justification que des raisons budgétaires, la préfecture d'Ille-et-Vilaine sucre 40 000 euros à ISKIS. Alors déjà, il faut noter, c'est important, je pense que ça a sans doute un lien, mais voilà, les demandes de subvention pour la Marche des Fiertés de juin et pour le Festival Regard, qui sont deux événements rennais organisés par Esquisse, ben, ces deux demandes de subvention avaient été refusées au centre par la préfecture et sans aucune justification. Pourtant, on le sait, Esquisse lutte contre les discriminations et défend les droits humains. Alors, conséquence pour avec cette coupe drastique et inattendue, ben, les deux salariés d'Esquisse seront sans doute licenciés. Bien sûr, Canal B, les héroïnes, apportent tout leur soutien à Esquisse. On leur a proposé de venir prendre la parole à nos micros. Ça sera fait dans les semaines, dans les jours à venir. Et puis, pour ma part, de façon tout à fait personnelle, je le prends pour moi, je me pose une question. Je me demande s'il y a un lien de cause à effet avec l'arrivée d'un nouveau préfet il y a pile un an en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, à Maury de Saint-Quentin. Voilà, je me pose juste la question. Bref, je vous invite à écouter demain matin, samedi 11 octobre à 10h, l'émission spéciale dédiée aux associations et leur appel à la mobilisation. Puis rendez-vous aussi pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, au marché des Lys pour un rassemblement demain matin autour d'échanges sur la situation des associations avec un moment fort à 11h10 pour tirer la sonnette d'alarme. Demain après-midi, ça se passe à l'Antipode à 14h30 pour un café-débat sur notre rapport aux associations. Tout ça, c'est à l'appel du mouvement associatif. Ça ne tient plus, pas un euro de moins pour les associations.
Depuis qu'on est gamin, on nous rabâche les mêmes conneries sur la virilité. Mais en fait, ça veut dire quoi être un homme, un vrai ? Moi, je crois qu'un homme, c'est celui qui se bouge face aux violences faites aux femmes. Parce que si elles se terminent parfois sous les coups d'un autre, elles commencent toujours par notre indifférence. Toi, quand tu ris à la blague sexiste de ton patron pour ne pas le vexer, est-ce que t'as pensé à celle qui s'est sentie humiliée ? Toi, hier au dîner, quand il l'a rabaissée toute la soirée, pourquoi t'as rien dit ? Et toi, quand tu fais tourner des snaps déludés qu'une fille a envoyé à ton pote en privé, t'as réfléchi à ce que tu faisais ? Quand ta pote te dit qu'elle a été emmerdée et que tu lui réponds « Ah, ça va, c'est pas méchant. Franchement, tu penses l'avoir aidée ?» Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences, ce sont les autres et que je n'ai rien à me reprocher, est-ce que là, je suis un homme ? Un vrai ? On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. Alors maintenant, c'est à nous de bouger. Écoutons les femmes autour de nous. Comprenons les conséquences de nos actes. Éduquons-nous. Soyons des hommes, des vrais.
Marine, éduquons nos fils, bordel.
Exactement, des hommes, des vrais, c'est quoi ? C'est la question justement que pose Cédric Doumbé, le champion de MMA dans sa campagne Be a Man. Et pourquoi on en parle ? Parce que les auteurs des crimes féminicides et des attentats misogynes sont des hommes. Des hommes qui ont été avant, un jour, des enfants. Des petits garçons précisément, puisqu'on aime catégoriser. Des petits garçons qui ont sans doute des parents. Des mamans précisément, puisqu'on aime pointer du doigt et désigner des coupables de la mauvaise éducation des garçons. Faudrait pas que ce soit uniquement de leur faute à eux. D'ailleurs, ça l'est pas, mais ça l'est quand même vachement plus que celle des mères. En réalité, c'est l'ensemble de la société qui échoue collectivement dans ces moments. Toutes les 2 minutes 30, quand passe un métro et qu'un homme viole ou tente de violer, la société échoue. Toutes les 3 minutes, quand le temps de brosser ses dents se termine et qu'un homme agresse sexuellement un enfant, la société échoue. Tous les 2 à 3 jours, quand le colis Vinted arrive à destination et qu'un homme assassine sa compagne ou son ex-compagne, la société échoue. Tout comme elle échoue à chaque fois qu'un homme harcèle une collègue au travail, à chaque fois qu'un homme frappe sa partenaire, à chaque fois qu'un homme use de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles, à chaque fois qu'il humilie une femme d'une blague sexiste, qu'il se sent valorisé en provoquant une bagarre, qu'un père dit à son fils qu'il ne doit pas pleurer parce qu'il n'est pas une fillette, qu'on verrouille un garçon dans l'affirmation d'une masculinité qui ne correspond pas à l'image que l'on a de la virilité, qu'on entrave la liberté d'un garçon à devenir qui il est ou qui il pourrait être à chaque fois qu'on le compare à une fille pour le dévaloriser, eh ben c'est bel et bien la société qui échoue, c'est bel et bien la société qui crée les hommes violents et c'est bel et bien la société qui blâme ensuite les mères d'avoir raté l'éducation de leur fils. Et pourtant, C'est là ce qu'on leur demande, de placer le garçon sur un piédestal, de flatter son ego, de le surdimensionner, de couper cet homme en devenir de ses émotions, d'écraser les filles, de les embêter pour leur signifier qu'on les aime bien, de les forcer parce qu'elles n'attendent que ça, de mal les traiter parce qu'elles ne méritent que ça, et de prendre la place, toute la place, de s'y accrocher et de ne pas lâcher. Consciemment ou inconsciemment, il y a encore cette idée, chez les femmes comme chez les hommes, qu'avoir un garçon, c'est plus simple. Qu'avoir une fille, c'est constamment avoir peur pour sa sécurité et son intégrité. Pourtant, si elles sont menacées, c'est bien parce qu'en face, à l'heure actuelle, il y a des garçons, des hommes. Avoir plus peur d'un homme que d'un ours, ça en dit franchement long. Sans chercher à comparer la difficulté d'éducation, des mères se questionnent. Oui, parce que ce sont les mères qui s'interrogent, les pères sont bien trop occupés à piller et saccager le monde. Alors elles se questionnent. Et si mon fils devenait un agresseur ? Et si mon fils violait une femme dans quelques années ? Et si mon fils battait sa femme ? Et de là émerge la question qui donne le plus mal à la tête et au bide, comment élever mon fils pour qu'il devienne un homme bien ? La barre en plein milieu du front. Qui peut porter un truc pareil sur ses épaules ? Prendre la responsabilité d'une telle mesure, c'est quasi voué à l'échec. Mais elles n'ont pas le choix, si elles n'entament pas cette réflexion, personne ne le fera. Alors elles se retroussent les manches, déjà mille fois retroussées auparavant, et elles y vont, elles foncent. Avec leur caméra, leur micro, leur stylo et leur carnet, elles vont à la rencontre des personnes concernées. Elles, ce sont des journalistes qui ont réalisé des documentaires, genre Cécile Sixou avec « Tu seras un homme, mon fils », des livres genre Aurélia Blanc avec « Tu seras un homme féministe, mon fils » ou encore la BD qui vient de paraître fin septembre intitulée « Éduquons nos fils », des podcasts genre Julie Gavras avec « Pas mes fils » diffusé actuellement sur Louis Média et qui partent enquêter auprès de celles et ceux qui sont sur le terrain et constatent, depuis peu ou depuis longtemps, que l'éducation différenciée des filles et des garçons a un prix et qu'il est salé. Il y a le coût de la virilité, comme l'a estimé et calculé Lucille Pétavin, qui impute directement la responsabilité sur l'éducation des garçons. Parce que les garçons, dès le plus jeune âge, ils sont incités au développement de leur motricité, à l'exploration de leur environnement, à la concentration autour des jeux de logique et de construction. Puis au fil du temps, ils sont orientés vers les carrières scientifiques, ils sont excusés et même encouragés d'être téméraires, bagarreurs, colériques. Ils parlent fort, chahutent, ils courent, pédalent et conduisent vite. Ils n'ont pas appris à exprimer leurs émotions ou à passer le balai et vider le lave-vaisselle. Parce qu'ils sont des garçons, des hommes. Et des garçons, des hommes, ça se construit en opposition aux filles, aux femmes, jugées plus vulnérables, faibles, littéraires, quoi. Et à cela, vous rajoutez les effets du porno, les postes de pouvoir, de décision et de responsabilité et l'impunité totale des délits et crimes sexuels à l'encontre des femmes, ça donne pas le plus beau des tableaux. Mais encore une fois, tout dépend de où on se place. Cette éducation, elle est donnée par les parents qui renvoient leurs stéréotypes sur les jouets, les jeux, les vêtements et les comportements qu'un garçon doit adopter. Mais elle est aussi donnée par l'école qui laisse les garçons occuper tout l'espace de récréation avec les jeux de ballon et qui accorde plus d'attention aux gars qu'aux filles, notamment en mathématiques, on le sait, dès le CP. Par les structures de loisirs, par le marketing genré, par les représentations dans la littérature jeunesse, les dessins animés, les jeux vidéo, les publicités, tout ça, tout ça. Dans le documentaire de Marie-Christine Gambard et Émilie Gral, intitulé « Éduquons nos fils », diffusé fin septembre sur France 2, plusieurs hommes témoignent. Mathieu, il parle de l'hypersexualisation des femmes dans les années 80 et de l'influence des représentations masculines réduites à des modèles hyper virils, type Schwarzenegger, Stallone et Jean-Claude Van Damme. Kevin se rappelle le gringalet qu'il était, mais aussi le témoin des violences conjugales que son beau-père faisait subir à sa mère. Bolewa évoque lui aussi son enfance, l'éducation de mâle alpha qu'il a reçue, l'attention que son père lui accordait uniquement quand il faisait des bêtises, le guerrier ultime qu'il était dans la cour de récré. Et puis, il y a Cédric aussi. Lui, il n'a pas pleuré de ses 9 ans à ses 31 ans. Il a été conditionné et a eu des difficultés à s'en détacher. Dans le documentaire de Sikou Niakate, intitulé « Dans le noir, les hommes pleurent », les témoignages affluent dans le même sens. Tous ont intégré la virilité comme un masque à porter en société. La domination masculine, la violence, la force physique, la colère, la taille de leur bite, tout ça, ça s'est ancré dans la construction de leur identité. Ces hommes-là racontent leur rapport à la masculinité hégémonique, mettant à distance le mythe de la virilité et en analysant leurs ressentis face à leur vécu de garçon et d'homme, que les injonctions à se faire respecter par la force et la brutalité a abîmé profondément. Mais ce qu'ils racontent aussi, c'est qu'on peut s'en distancer, on peut réfléchir, prendre conscience du mythe qu'est la virilité, déconstruire les normes néfastes et construire une masculinité personnalisée et apaisée. Dans Éduquons nos fils, les hommes ont bousculé leur représentation grâce à leurs compagnes ou aux femmes qui les entourent ou à leurs enfants. Les lignes peuvent bouger, les lignes doivent bouger. Les hommes doivent prendre conscience de leurs privilèges et de leur position dominante dans la société à travers l'ampleur des dégâts et conséquences que cela cause sur les femmes, mais aussi sur eux et sur l'environnement. Ils doivent non seulement en prendre conscience, mais aussi affirmer leurs ressentis, leurs désaccords et désapprobations vis-à-vis de cette injonction viriliste et montrer qu'il y a d'autres possibilités en termes de masculinité, qu'elles peuvent être plurielles, que des hommes peuvent allier force physique avec sensibilité sans cogner dans des portes des femmes, des enfants ou d'autres hommes, que des hommes peuvent aimer la lecture, le patinage artistique, mais aussi la bière et l'allumage de barbecue, sans prendre des risques inconsidérés pour marquer leur dangerosité ou se faire respecter. Tout le monde est concerné, tout le monde est responsable, comme l'a dit Cédric Doumbé.
Merci Marine, et oui, je vous le confirme, c'est dur.
C'est costaud d'élever un garçon.
C'est dur d'élever un garçon, surtout quand effectivement, derrière, il y a la société qui saccage tout ce qu'on a pu faire et dire. Pause musicale dans les héroïnes sur Canal B. On va écouter une histoire vraie, celle de Wet Leg. Wet Leg sur Canal B, dans les héroïnes. Gwen, bonjour, rebonjour.
Rebonjour Morgane.
Ravie de vous retrouver dans les héroïnes pour cette nouvelle saison. Gwen, vous nous offrez un peu de douceur aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui Morgane, je suis d'humeur un peu triste, pas l'énergie d'élever la voix, l'état du monde, les menaces persistantes sur les droits humains fondamentaux, les hurlements des racistes qu'on ne peut plus ignorer partout, dans toutes les langues. J'avais donc besoin de douceur. Je vous propose de fondre de douceur, de nous envelopper ensemble quelques minutes dans une nappe de nostalgie et de tristesse. Taylor Swing, que je partage avec vous aujourd'hui, est extrait de Remember That I Love You, cinquième album solo de Kimia Dawson, sorti en 2006. Kimia Dawson, c'est un auteur compositrice, interprète folk queer née aux États-Unis en novembre 72, connue également pour faire partie du duo anti-folk The Moldy Peaches, qui se fait connaître après avoir contribué à de nombreuses bandes originales de films indépendants. J'ai découvert quant à moi Kimia il y a presque 10 ans avec le film Juno et le morceau si triste, unique, iconique et si tendre Anyone Else But You, que je recommande à celles de nos auditrices qui, les chanceuses, ne le découvriraient pour la première fois aujourd'hui.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else.
Kimia Dawson, c'est une artiste que j'aime quant à moi depuis longtemps. Un style indie folk épuré, acoustique, une voix infiniment douce avec ses fragilités rauques qui accrochent parfois, comme certaines tristesses sont parfois difficiles à avaler. Dire Swing, pour moi, c'est l'histoire d'un pneu suspendu à la branche d'un gros chêne qui se balance dans un jardin en automne et sur lequel on a envie de s'abandonner comme une enfant. C'est aussi le désir d'aller de l'avant, plus haut, plus loin, comme de laisser derrière soi un amour ou un idéal qui nous est cher. Kimia chante la rupture comme une comptine maternelle, exhortant, comme elle le dit elle-même, les fantômes à nous quitter. Une étreinte chaleureuse et rassurante comme les bras d'une mère dans un gros pull en laine. Ces bras auxquels tu t'abandonnes et dont les larmes qu'ils font naître sont le signe d'un soulagement, d'une guérison prochaine et puis surtout cette impression de n'être plus seule pour quelques instants. Se laisser bercer par la voix de Kimia au gré des mouvements de la balançoire et d'une rengaine acoustique triste. Et cette tristesse, comme la douceur acidulée d'une sucette au chewing-gum, tu croques, ça craque, puis ça finit par fondre et cette petite boule que tu mâches trop longtemps, qui sait si elle ne finira pas par faire une bulle emportant dans l'atmosphère toutes les raisons de ton chagrin. Vers des jours meilleurs donc, et sans vacarme, Kimia Dawson.
Merci Gwen, on est parti avec vous dans cette bulle et on écoute tout de suite Kimia Dawson.
I took the Polaroid down in my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it. Cause I like to be gone most of the time, and you like to be home most of the time. If I stay in one place, I lose my mind. I'm a pretty impossible lady to be with. Joey never met a bike that he didn't wanna ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty liked all of the books that I recommended. Even if he didn't, I wouldn't be offended. I had a dream that I had to drive to Madison to deliver a painting. For some silly reason, I took a wrong turn and ended up in Michigan. Paul Baraboe took me to the giant tire swing, gave me push and he started singing. I sang along while I was swinging. The sound of our voices made us forget everything that had ever hurt our feelings. Joey never met a bike that he didn't want to ride, and I never met a Toby that I didn't like. Scotty liked all of the books that I recommended. Wouldn't be offended.
Kimia Dawson, Tire Swing sur Canal B dans les Héroïnes. C'était l'excellent choix de Gwen Pacott aujourd'hui avec nous dans les Héroïnes. Demain, samedi, se tiendra la 4e édition de Haut-Parleuse, le festival féministe pour oser l'ouvrir. Ça se passe à Media School, c'est rue de la Chalotais, 9h30, 23h. Il faut s'inscrire sur certains événements, on va y revenir, mais sinon, je tiens à le préciser, les prix sont libres et gratuits pour les moins de 18 ans. Pour en parler plus précisément, nous avons, je vous l'ai dit, l'immense joie de recevoir Suzanne Joly. Suzanne, vous êtes créatrice des ateliers d'éducation à la vie affective, sexuelle et à l'égalité filles-garçons. Suzette d'École Les Étiquettes, vous êtes coordinatrice du festival et vous êtes venue avec votre co-fondatrice Aminata Bléa Sangaré. Aminata, vous faites 10 000 choses, je ne saurais faire la liste de tout ce que vous faites à Rennes. En tout cas, on est ravis de vous recevoir toutes les deux sur le plateau des Héroïnes. Avant qu'on entre vraiment dans le festival, je voulais savoir, rappeler peut-être le postulat de départ qui a fait que vous avez créé ce festival.
Merci pour l'invitation. Co-fondation, effectivement, rêve dans une période qui s'appelait la pandémie, où on était tous enfermés et on se demandait si on allait ressortir un jour. Et moi, au même moment, je créais un podcast et qui s'appelle « Tout le monde passe sur le trône » et je me disais la première chose que je ferais en sortant de ce confinement, de ces confinements, c'est d'organiser quelque chose où les gens pourront se rencontrer, se parler et être bien ensemble. Et l'idée d'un festival est venue assez rapidement, un festival de podcast. Il en existait ailleurs, mais je me disais que Rennes était dimensionnée pour ça. Il me fallait une victime consentante pour créer cet espace-là. Nous étions quatre au démarrage et puis nous sommes restés deux. Et j'ai eu la chance de découvrir Suzanne, Suzette, comme ça, et de co-créer ce festival qui, effectivement, vit sa 4e année cette année.
Suzanne, Suzette, Suzanne, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à Aminata, à ce projet de podcast ?
Ben, un peu le même constat, parce que moi aussi, je crée mon podcast d'histoire pour enfants en volet compté à la même période en 2020. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec des échanges sur Instagram et puis en vrai. Et l'idée de proposer un espace aussi autour du podcast, mais avec un angle féministe, moi, ça ne pouvait que me parler, évidemment. Donc, réunir ces deux passions, c'était un grand oui.
On vient de le dire plusieurs fois, c'est la 4e édition. On sait comment fonctionne aujourd'hui la culture, les associations, les collectifs. C'est compliqué. Donc on peut souligner quand même que vous tenez bon. Comment vous tenez bon, justement, face à tous ces obstacles que j'imagine
On espère en tout cas pouvoir le proposer une 5e édition. Cette année, effectivement, on a eu la chance d'avoir des soutiens de plusieurs collectivités et services. Donc, nous espérons que ces services-là continueront de soutenir, parce qu'effectivement, allier le féminisme et le podcast, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est comme une évidence pour donner la parole à ceux et celles que l'on entend peu, et ça serait vraiment dommage de se priver de ça. Donc pour l'instant, on tient comme ça, on tient absolument à garder le côté libre et conscient. Donc ça ne pourra se faire que si effectivement on a des subventions derrière pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement et d'apprendre à oser l'ouvrir, justement.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe demain ? Moi, j'ai vu que vous aviez identifié 5 moments, en fait, dans la journée. Vous avez, enfin, en tout cas, moi, pour mon cerveau de dyslexique, c'est hyper pratique. La matinée, l'après-midi, la soirée, mais aussi ce qui se passe en ligne. Alors, j'imagine que les masterclass qui se passent en ligne, elles sont complètes.
Et elles sont terminées.
En plus,
mais il y a encore l'accès au replay si les gens souhaitent continuer à s'inscrire, etc. Ce sera plus en live, mais en replay.
En replay,
il y a
ouais.
4 masterclass qui se sont terminées mercredi soir. Et voilà, c'est toujours des moments chouettes pour s'outiller un peu sur les questions de podcast et tout ça. Donc là, ça s'adresse vraiment à un public qui voudrait lancer son podcast. Et donc oui, c'est accessible en replay.
Et ben on mettra le lien sur le blog des Héroïnes sur le site de Canal B. Et puis il y a aussi ce qu'il y a en continu, c'est les stands et les animations. Quels sont vos partenaires demain, cette année, aux Parleuses ?
Alors aux parleuses, on aime toujours lire, faire découvrir des livres, donc il y a toujours une librairie. Et cette année, la librairie qui nous accompagne, c'est la librairie La Rencontre, qui est une librairie indépendante, qui est sur Plaine de Beaux. Donc on est ravis d'avoir ce nouveau partenariat. On se permet d'être infidèle et on garde jamais la même librairie, pas parce qu'on est fâché, mais parce qu'il y a plein de d'initiatives que l'on veut mettre en avant, souvent des librairies, la plupart du temps indépendantes, de femmes, et qui se positionnent sur un territoire qui est déjà chargé en librairie, et à chaque fois il y a des identités différentes, et les noms en tout cas des librairies nous parlent à chaque fois, et La Rencontre, ben, ça nous paraissait évident. Ça, c'est un des stands. Peut-être que Suzanne peut parler des autres.
On a aussi le collectif Ridé mais pas fané du planning familial d'Ille-et-Vilaine qui va venir, donc sur toutes les questions de ménopause et de vieillesse, etc. Donc ça, c'est super chouette aussi d'avoir une représentation aussi de femmes plus âgées qui vont aussi du coup participer, lire des textes au micro, etc. Et on a également l'association GLS, Gays et Lesbiens Sport, et puis l'association AMA, pour une moto alternative, pour aussi ouvrir la moto à d'autres groupes sociaux, notamment les femmes et minorités de genre. Et puis
Front de mer,
tout exactement.
Ouais, on est ravis. Alors Front de mer aura une double casquette pendant ce temps-là, parce qu'on aura un temps de rencontre où on pourra rentrer un peu plus dans le détail de la création de Front de mer Rennes, parce que c'est effectivement, il y a une échelle nationale, et les personnes qui le souhaiteront pourront après discuter sur le temps du stand, effectivement plus finement aussi, pour découvrir cette association rennaise.
Ouais, et c'est important ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, quand on pense à Front de mer, on voit tout de suite Fatima Wazak, et c'est super, mais effectivement, elles sont assez actives à Rennes. Je pense à Aurélie Massé, à Priscilla Zamor, et puis, faut le dire quand même, Marine, vous êtes restée très discrète, mais demain, vous êtes... dans la lumière. Vous êtes aux parleuses. Quelle place pour la parole des condamnés? C'est le fameux projet dont on a parlé il y a 15 jours dans Les Héroïnes.
Là, je vais parler des ateliers genre qu'on mène deux fois par an à la prison de Rennes et à la prison de Vezin. Peut-être, si on a deux minutes, on pourra parler du podcast Virilité, mais c'est principalement les ateliers genre.
Voilà, ça c'est une table ronde. Il y a la rencontre donc avec Front de mer, et puis il y a les ateliers. Il y a aussi, alors ça moi je les adore, les autocollants engagés avec Chômeuse Gohan, qui sont absolument géniaux. Ça commence à 9h30. Et jusqu'à 23h. 23h, ça veut dire que la soirée se poursuit. Il y a DJ set. Il y a Aminata, la DJ.
C'est ça.
Génial.
Je prends une nouvelle casquette pour la première fois, et parce que je me suis rendu compte que c'était encore un lieu à conquérir pour nous les femmes. Donc du coup, voilà, je me lance dans le DJing parce que j'ai été initiée par d'autres femmes, et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'amuser. Et voilà, donc je vais me dévoiler pour la première fois.
Et c'est vrai que c'est un milieu qui manque cruellement de présence féminine. Il y a aussi la chorale Les Louves, la chorale rennaise Les Louves, qu'on a reçue ici dans d'autres émissions à Canal B, qui est assez incroyable. Et puis il y a, alors là on parle de tous ces événements, de tous ces stands, ces activités qui ont lieu, mais il y a quand même tout ça est tendu par une idée, c'est oser l'ouvrir. On est des filles, des femmes, mais on doit prendre la parole, puisque on nous la donne pas, il faut qu'on saisisse l'opportunité de la prendre, et au parleux c'est ça.
Exactement, ne pas attendre qu'on vienne nous donner le micro. Pourquoi pas créer sa propre émission en sortant de là? On a eu la chance de voir des podcasts naître après les autres éditions. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas obligé d'être podcasteur ou podcasteuse à la fin de la journée. Par contre, on a les outils qui nous permettent de oser l'ouvrir, parce que y a plein de choses à dire, qu'on soit femme, hommes, minorités, et quelquefois à l'intersection, on se doute qu'il y a des croisements qui facilitent pas les choses pour les prises de parole. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un endroit bienveillant qui, tout au long de la journée, nous permet de rencontrer des personnes inspirantes. On vient de parler de Marine, effectivement, il y en aura plein d'autres, et de se dire, j'ai qu'à prendre un micro, mon téléphone, et si j'ai des choses à dire, les go, j'y vais, quoi.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ont participé aux éditions précédentes, qui ont donc oser l'ouvrir et qui viennent au festival, peut-être donner des conseils, ou en tout cas rencontrer ceux et celles surtout qui veulent l'ouvrir? Suzanne.
Ouais, déjà, il y a le gros temps fort de la scène ouverte qui permet effectivement de déclamer des textes au micro. Et souvent, ça, ces textes sont le fruit d'ateliers du matin. Donc, ça permet de mettre en pratique directement. Et effectivement, il y a des personnes qui reviennent les années suivantes, soit parce qu'entre-temps, elles ont lancé un podcast ou en tout cas participé à la scène ouverte, etc., pour du coup accompagner d'autres personnes dans cette voie, quoi. Donc, ça, c'est génial.
Est-ce qu'il y a des temps prévus sur une mixité choisie ou en non-mixité ?
Oui, il y a plusieurs ateliers en mixité choisie, donc sans hommes cis, notamment autour de la voix, de la prise de parole, de l'humour, etc., pour justement créer un espace plus safe et plus libre, en tout cas sans injonction de la part des hommes cis.
Ouais, vous verrez, on en parle avec Vacarme qui a fait aussi ce choix dans son organisation et je leur demandais d'expliquer aux auditrices qui pourraient ne pas être familières de ça. Il y a la non-mixité mais aussi la mixité choisie et là c'est les hommes cis à qui on demande de ne pas participer, les hommes dont le sexe a été est le même que celui assigné à la naissance.
It's Britney, bitch. Britney, bitch.
Bah, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un moment que j'aime bien aussi, c'est le salon des podcasteuses parce qu'on fait rencontrer des personnes du coin. Et pour nous, c'était vraiment important et depuis le début du festival de pas juste accueillir la scène parisienne du podcast, etc., mais de mettre en lumière aussi les personnalités locales et surtout de créer de la rencontre. Et je rebondis avec le billet du début sur l'association et le rôle qu'on joue aussi dans la lutte contre la montée des extrêmes droites, etc. Et pour moi, c'est vraiment un moment dans le festival où vraiment il y a des personnes qui se rencontrent, qui parlent de leur passion, que ce soit du podcast ou du féminisme, et qu'on soit auditeuriste ou réalisatrice de podcast. Et c'est vraiment chouette parce que on sait qu'il y a vraiment du lien qui se crée et que les gens se revoient ensuite derrière. Et ça, Et pour moi, c'est ma petite pierre à l'édifice contre l'extrême droite, en tout cas de créer du lien social, et notamment autour de sujets qu'on adore, encore une fois, sur la lutte contre les discriminations et tout ça.
On se retrouve bien là-dessus avec les héroïnes. Donc ça se passe demain, samedi. C'est la 4e édition de Haut-Parleuse, le festival féministe pour oser l'ouvrir. C'est rue de la Chalotais à l'école Media School de 9h30 à 23h. Et il y a des tables rondes. Clin d'œil à Marine Combe. Quelle place
qui
pour la...
Qui récupère une tétine sous la table.
Lise va peut-être chanter en fin d'émission. Quelle place pour la parole des condamnés. C'est à 15h30. Il y a la chorale Louvre, il y a le stand du planning familial autour de la ménopause parce que c'est aussi un des sujets abordés par le planning. Hein, on n'est pas que sur la contraception, l'IVG, ils font plein d'autres choses. Il y a Front de Mer aussi, les Rennaises de Front de Mer qui sont là, il y a un bar à paillettes, il y a les Showmus Go On avec leurs autocollants engagés, il y a un DJ set par Aminata, il y a vraiment plein de choses et puis vous retrouvez donc en replay les Master classe, je mettrai bien sûr le lien. Nous, on va se quitter, je vais vous laisser avec l'interview d'un autre collectif féministe, il a un an tout juste, il s'appelle Vacarme, le cri des hyènes. J'ai interviewé Marie, Anouk et Marina pour parler de l'exposition itinérante qu'elles organisent à partir du 24 novembre autour d'une vingtaine d'œuvres protéiformes réalisées par des personnes victimes de VSS, violences sexistes et sexuelles. J'insiste sur le terme « personne victime », car Marie, que j'ai interviewée il y a 2 jours, y tient et elle n'a pas eu l'occasion pendant l'enregistrement de cette interview de le dire. Donc voilà, les personnes victimes et non les victimes. Je vous laisse donc avec Vacarme, le cri des hyènes. Et puis à suivre, pour terminer cette émission, il y aura Garance Midi avec son titre « Dans la maison ». À bientôt. Merci mesdames.
Merci.
Merci Morgane.
Je suis donc avec Marie, Anouk et Marina. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation des héroïnes. Vous êtes cofondatrice et membre de Vacarme, le bruit des hyènes, un collectif féministe rennais, somme toute assez récent. Il a été fondé il y a environ un an, c'est ça ?
C'est ça, en ouais. Novembre 2024.
Donc on est près des un an. Et qui est notamment basé sur trois valeurs fortes sur lesquelles j'aimerais bien que l'on s'attarde quelques instants, parce que je considère que c'est important. Ces trois valeurs, c'est lutter contre la silenciation, considérer que l'intime est politique et faire du collectif. Donc si je les reprends dans l'ordre, même si elles ont chacune la même importance, lutter contre la silenciation, comment vous expliquez cette valeur ? Quelle est-elle ?
Bah, moi, je pense que c'est en lien avec vraiment le format de Vacarme. En fait, on expose des œuvres qui ont été créées dans des moments d'extériorisation des violences. Et du coup, Vacarme, c'est vraiment un lieu d'expression et de se rassembler autour de ces vécus qui sont vécus trop souvent individuellement, quoi. Et du coup, lutter contre les silences imposés, c'est créer un espace où tout le monde puisse exposer des œuvres par rapport aux violences vécues.
Merci Anouk. Donc, alors, considérer que l'intime est politique, cette valeur, comment vous en parleriez ?
L'idée, c'était partie du constat que les violences sexuelles, c'est des vécus qui sont en fait hyper nombreux, pluriels et pourtant très souvent hyper solitaires. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, la sensation de solitude autour de ça. Et l'idée d'en faire une exposition collective, c'était aussi de dire, ces vécus-là, ils ont une place et ils ont un message aussi de faire exister, de donner une place dans l'espace public à ces violences, enfin à ces œuvres qui ont été créées à partir de violences vécues. Et on a beaucoup des personnes qui exposent, qui n'avaient pas créé leur œuvre dans le but de l'exposer. Qui était vraiment d'abord quelque chose de un moment d'extériorisation de toutes les émotions dont on parle peu mais qui sont liées à tout au vécu de violences sexuelles et du coup qui restent parfois sous un lit dans une chambre montrées à personne ou peut-être à des proches et encore parfois vraiment à personne. Et du coup, de se dire que ces vécus qui sont hyper intimes, en fait, ils sont très collectifs et ils sont du coup politiques. Et de leur donner vraiment cette place en tant qu'œuvre dans une exposition collective, c'était vraiment important dans l'idée du projet.
Les VSS, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement sont politiques, l'art est politique et les victimes sont politiques. Et en l'occurrence, ces choses-là, il faut les rendre effectivement, les mettre sur l'avant de la scène et le débat public. Et puis, il y a cette troisième valeur, faire du collectif. Alors, dans le féminisme, on le sait, le collectif, c'est quelque chose qui permet de continuer la lutte quand parfois c'est compliqué. Et la sororité, le fait d'être ensemble, ça nous rend plus fortes. Ouais, c'est l'idée, c'est ça, de cette troisième valeur. Marina ?
Oui, effectivement, le fait de réunir toutes ces œuvres au même endroit et de faire ensemble aussi cette exposition, que ce soit juste déposer une œuvre, que ce soit aussi participer à l'organisation, ça permet de se sentir moins seul, comme Marie et Anouk l'ont dit, et de laisser une vraie place, une parole qui n'en a que très peu dans la société. En fait, on parle beaucoup des violences de manière générale, mais ces violences, elles sont vécues individuellement. Et les mettre toutes ensemble, c'est se rendre compte qu'on a que plein de personnes, en fait, ont vécu des choses similaires, mais à chacune à leur façon. Et oui, ça donne cet aspect de sororité et de liens et de personnes qui se soutiennent, en fait.
L'idée aussi, c'était quand on était du coup à trois à la base pour créer ce projet, on avait très envie et en même temps c'était un gros projet et on s'est vraiment dit que notre force allait venir aussi du fait que les exposantes qui le souhaitaient et en avaient l'envie allaient nous rejoindre et amener du coup leur singularité, leurs expériences, leurs réseaux, leurs envies. Mais on savait pas si ça allait fonctionner. C'était vraiment notre envie de base. Et au final, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est vraiment hyper riche pour nous de vivre ça. Et de vivre ça avec autant de personnes différentes qu'on rencontre aussi, du coup, au fur et à mesure.
Quand on s'est rencontrés en juin dernier, vous étiez sur la rédaction de la charte du collectif. Elle en est où, cette charte ?
Elle est finie. Donc, du coup, c'était une charte qui portait un peu sur plein de sujets. Par exemple, c'est des sujets très concrets, combien de temps on garde les œuvres, je sais pas, est-ce qu'on fait signer un petit papier pour les œuvres, enfin les artistes qui nous donnent leurs œuvres et tout ça. Aussi sur le sujet de la non-mixité, je pense qu'on va en parler du coup un petit peu après. Sur aussi les témoignages de VSS au sein du collectif, du coup dans quels espaces on peut s'exprimer, quelles limites on met à ces témoignages qui peuvent rappeler des traumatismes à certaines. Et oui, on l'a terminé, ça s'est très bien passé. Du coup, on l'a coécrit avec les exposants et exposantes.
Alors, on va y venir au cœur du projet de Vacarme, le Cri des Hyènes. C'est une exposition collective itinérante trimestrielle que vous organisez. Donc, ça aura lieu en novembre, en janvier et en mars. On ne manquera pas de donner les dates de 2026 ici dans les héroïnes. Et ça donc porte et parle de violences sexistes et sexuelles. C'est une exposition que vous avez voulu comme un moment d'extériorisation, ce que vous disiez tout à l'heure, pour les victimes qui ne sont pas artistes. Il y a une vingtaine d'exposantes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette exposition unique sur « on n'est pas artiste, mais on utilise l'art pour extérioriser une douleur ». Alors, je sais, vous allez mettre des warnings aussi. Vous êtes très précautionneuseux de ça, de dire « attention ». C'est du témoignage de victimes.
Bah ça fait partie des questions qu'on avait depuis le début, de se dire notre envie de base, c'est de vraiment partir de ce que chacun chacune a créé sans regard dessus. C'est-à-dire que à partir du moment où une œuvre a été créée dans ce contexte-là, elle peut faire partie de l'expo. Il y avait plusieurs personnes qui nous ont contactés entre guillemets en se posant la question de est-ce que mon œuvre rentre dedans, est-ce que voilà. Et nous, la volonté, c'était vraiment de créer un espace, mais qui se construise collectivement et qu'on n'ait pas nous forcément de regard. Ou de validation à donner. Par contre, il y a la contrainte des lieux qui nous accueillent, et notamment quand certaines œuvres peuvent être choquantes visuellement ou peuvent renvoyer aussi à des... On pense forcément aux visiteuses qui vont venir, à leur vécu propre. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, en fonction des lieux, et prévenir et agencer d'une manière à ce que la personne qui vient voir l'exposition puisse choisir d'être là. Et être accompagné aussi dans la mesure du possible.
Ça, c'est donc un parti pris. Et on sait aussi souvent que l'art, justement, il peut être là pour déranger, venir questionner. Je repense à une exposition qui prenait place dans les vitrines du 4 bis, Esplanade Charles de Gaulle, sur des victimes de viol, les vêtements que ces personnes portaient à ce moment-là, des pyjamas, des joggings, avec un petit texte qui expliquait les circonstances, et il n'y avait aucun warning, les gens pouvaient découvrir ça et être choqués. Vous, c'est vraiment un parti pris que de faire attention au ressenti, au vécu des victimes.
Oui, je pense, moi j'ai pas mal réfléchi à cette question là dernièrement. Maintenant j'apprends vachement Vacarme comme un lieu où on prend soin les uns une des autres, plutôt que d'aller vraiment dans la confrontation, vouloir à tout prix changer les mentalités. Enfin là du coup je parle très personnellement. Pour moi du coup Vacarme c'est un endroit où on devient plus fort, plus forte, pour après affronter le patriarcat qui est du coup un système qui est très concret, matériel. Du coup pour moi Vacarme, il y a cet aspect là de changer les mentalités. Je pense que en tout cas pour moi maintenant c'est surtout un espace de prise de soins du coup en non mixité, c'est quand même assez important pour après être plus forte dans la lutte contre le patriarcat et aussi contre les autres systèmes d'exploitation, parce que le patriarcat il agit pas seul, il agit avec le colonialisme et le capitalisme. Donc voilà, après je peux laisser mes camarades développer aussi.
Marina ?
Je repense à l'exposition, je l'avais vue effectivement avec les vêtements au 4 bis. C'était à la fois effectivement interpellant, mais c'était pas non plus un contenu très explicite. Or, dans les œuvres qui peuvent être exposées, il peut y avoir des choses vraiment explicites. Et on sait aussi que les personnes qui viennent dans ces expositions-là peuvent avoir une certaine sensibilité à ça. Et donc, effectivement, je rejoins Anouk sur l'aspect prendre soin. Je pense que c'est important, effectivement, que chacun, chacune puisse se sentir libre de venir en sécurité, sans se mettre en danger.
La première partie de cette expo itinérante, ça commence le 24 novembre à l'ESS Cargo, ça c'est à Rennes 2. Et le vernissage aura lieu le 25 novembre, une date importante pour les femmes, puisque c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on sent dévoiler vraiment précisément ce qu'on pourra voir dans cette exposition, nous donner quelques infos sur ce qu'on pourra y découvrir peut-être.
Alors pour le vernissage, mais du coup aussi pendant 15 jours, l'expo sera visible à l'ESS Cargo. Ce qu'on pourra y voir, c'est vraiment une multitude d'œuvres, comme vous disiez juste avant, dans les formes. C'est vraiment très différent. On aura à la fois des textes, des illustrations, des œuvres audio, des films aussi qui seront du coup disponibles seulement pendant le vernissage, en tout cas sur place. Il y aura certaines œuvres justement qui seront visibles seulement au vernissage à l'ESS Cargo. Elles seront visibles plus tard au 4 bis, notamment en janvier. Mais donc n'hésitez pas à venir voir le mardi soir. Et on aura l'idée du vernissage, c'est aussi de créer un moment vivant autour de l'expo, parce que voilà, une fois qu'elle est installée, c'est une, entre guillemets, une œuvre collective, mais qui est inerte. Et pour autant, le projet, il est vraiment centré autour du vivant. Et donc là, l'idée, c'était de faire vivre un moment. Donc il y aura des temps de chant, il y aura une scène ouverte, et ça c'est important de le dire, parce que du coup scène ouverte, qui veut peut participer, et voilà, n'hésitez pas à venir rien que voir, et puis peut-être
c'est un appel.
Si vous vous sentez participer.
Mais justement, comment on fait pour vous contacter?
Bah, on a un mail.
Donc ça, je pourrais le mettre sur le blog des héroïnes, okay. Sur le site de Canal B, ou peut-être par l'Insta aussi, oui, de Vacarme, le cri des hyènes. Oui. Donc vous disiez là, Marie, que donc le 24 novembre, pendant 15 jours, l'exposition commence à l'ESS Cargo, puis elle revient en janvier au 4 bis. Est-ce que vous avez déjà les dates?
Oui. Elle sera en place du 6 janvier au 6 février. On n'a pas encore la date du vernissage de cette version-là, mais on la donnera dès qu'on l'aura.
Et ensuite, c'est en mars. Elle revient une troisième fois en mars, dans un troisième lieu. Lequel ?
Ce sera l'Hôtel Pasteur.
D'accord, l'Hôtel ouais. Pasteur, en mars 2026. Mais ça, ces dates, on vous les communiquera dans d'autres émissions au moment voulu. Vous avez fait le choix de la non-mixité choisie. On en a parlé il y a quelques instants, à savoir de ne pas autoriser les hommes cis dans votre organisation interne. En revanche, ils peuvent exposer. Et j'aimerais bien que vous puissiez l'expliquer, expliquer ce choix aux auditeuristes qui ne seraient pas accoutumés de ces choix. Marina.
On a fait le choix donc de ne pas mettre les hommes cis dans l'organisation, mais de les laisser quand même dans l'exposition, dans la mesure où il y a des hommes qui sont victimes, notamment dans l'enfance, beaucoup, on le sait, de violences sexistes et sexuelles. Mais dans la société en général, la parole des femmes est beaucoup moins...
Mise en avant,
oui, effectivement. Et il y a quand même une majorité de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.
Chez les mineurs, c'est 84% voilà, de filles ça. Qui sont...
Et cette exposition, je pense que vous l'avez conçue aussi comme un espace où toutes les personnes victimes pouvaient s'exprimer, un espace d'expression pour toutes les personnes victimes. Mais la majorité des victimes restent des femmes, et donc ça semblait important de laisser cet espace-là d'organisation à des femmes, en fait.
Oui, parce que comme on l'a dit, Vacarme, c'est un espace de prise de soins, et en fait, gérer des hommes dans des organisations, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, et ça peut être douloureux, et bah, mine de rien, les hommes cis, donc que leur genre correspond au sexe assigné à la naissance, ils ont des comportements violents, même s'ils ont été victimes d'agressions, quoi, ils représentent quand même quelque chose de violent pour les femmes et les minorités de genre, donc voilà, on a fait ce choix-là dans l'optique de prendre le plus soin possible.
Et si je peux préciser, c'était aussi une question qu'on a apportée dans la première rencontre avec les exposantes. Nous, donc Anouk, Maïna et moi, à la base, on avait fait le choix que toute personne puisse exposer. Mais la question de la mixité choisie en interne de l'organisation, c'était pas résolu. Enfin, c'était difficile comme question pour nous. Parce que voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent dans ces questions-là. Et donc, on a fait le choix de prendre la décision ensemble avec les exposantes qui voulaient s'impliquer dans l'organisation. Et du coup, c'est venu d'une discussion collective, ce choix-là.
Oui. Maïna, qui est la troisième cofondatrice avec Marie Anouk et qui n'est pas là. En revanche, Marina, est-ce que on peut parler de votre œuvre ou c'est compliqué et il vaut mieux venir le 24 novembre à l'ESS Cargo?
Je veux bien en parler, mais elle n'est pas finie. Donc voilà. Moi, je faisais partie de celles dont Marie disait qu'elles ont demandé à ce que ça a sa place dans l'exposition, parce que moi, c'est des textes. C'est pas facile d'exposer des textes visuellement. J'ai choisi d'en faire un carnet finalement, avec des textes qui retracent, que j'ai écrit sur une même agression au fil des années. Et donc c'est un carnet qui va regrouper plusieurs textes dans un ordre spécifique et avec des choses à manipuler à l'intérieur, notamment, on parlait des trigger warnings tout à l'heure, les contenus les plus explicites seront... à ouvrir, en fait, spécifiquement. Ils ne seront pas sur des pages telles quelles, en fait.
Cette volonté d'exposer des choses intimes et douloureuses, c'est, est-ce que ça vous rend plus forte par rapport à la violence du monde pour les femmes, les minorités de genre? Est-ce que ça fait partie d'une forme de thérapie pour un jour aller mieux?
Je ne sais pas si je parlerai de thérapie pour un jour aller mieux, parce que je ne sais pas si un jour on va vraiment mieux. Je pense que c'est un chemin, en fait, et le mieux, il est flou. Je ne sais pas non plus si ça me rend plus forte, mais en tout cas, ça laisse une place à une parole dont j'ai l'impression qu'elle... j'ai jamais trouvé où la mettre, cette parole, en fait. J'ai beaucoup écrit pour moi, sans jamais diffuser, sans jamais lire ou montrer à quiconque. Et là, ça permet de donner sa place à cette parole, en fait. Oui, ça fait du bien. Après, la question d'aller mieux, je ne saurais pas y répondre, en fait. Donc, c'est, pour moi, je vois ça comme un chemin. Et là, c'est une étape où j'ai besoin d'un espace pour cette parole. Et c'est en ça aussi que le projet de Anouk, Marie et Maïna me parlait énormément.
C'est assez exceptionnel, j'imagine, de ce type d'exposition, donner à exposer et donner à voir aux gens, au reste du monde, ce que peuvent représenter les violences sexistes et sexuelles. D'habitude, on laisse les artistes le faire, quels qu'ils soient, dans la littérature.
Alors, l'exposition, elle existe... on s'est inspiré de... Bon, on a copié même, on s'est pas inspiré sur l'exposition qui existe à Lyon. Ça fait 4 ans là, que ça existe. Et il y a la même chose aussi à Cholet. Donc non, on n'est pas exceptionnel.
Mais le projet est lié, dans le sens où ça a été créé à Lyon et c'était la petite sœur d'une des personnes qui l'a créé à Lyon, qui l'a lancé à Cholet. Moi, j'ai participé aux expositions à Lyon et donc c'est comme ça qu'on a... Mais parce que justement, je pense que ça répond à, comme tu disais Marina, un espace qui n'existait pas encore. Et qui, du coup, parle à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que ça se diffuse aussi au fur et à mesure.
Ne manquez pas, à partir du 24 novembre, à l'ESS Cargo, avec un vernissage le 25 novembre, l'exposition du collectif Vacarme, le cri des hyènes, un collectif féministe rennais, lyonnais, choletais, c'est ça, on dit choletais. Et aujourd'hui, rennais, qui donne à exposer et à voir des œuvres, une exposition protéiforme pour évoquer les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes, les minorités de genre en France notamment. Anouk, Marina, Marie, merci infiniment d'être venues nous en parler ce midi. Je vous souhaite plein de réussite pour cette expo, même si je pense que la réussite est déjà là, concrète, puisque vous avez fait du collectif et déjà contribué à la lutte contre la silenciation des victimes. Merci à vous.
Merci. Merci.
Les souvenirs se ramassent à l'appel. enterrer ton corps juste sous les hortensias, mais tu reviens. Brûlerai jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi, plus rien de toi.